RFI, les 18h à Québec, minuit à Tizi Ouzou et 20h à Montevideo. Antoine Galen, c'est à vous pour une folle nuit. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, les États-Unis et la Russie entament leur pourparlers à Riyad. Une première depuis l'invasion russe en Ukraine, il y a presque 3 ans, jour pour jour. Dans ce journal également, l'armée israélienne s'est retirée des derniers villages frontaliers qu'elle occupait au Liban. Mais elle a maintenu 5 positions, colère de Beyrouth qui dénonce une occupation. 3 orphelins français nés de parents djihadistes rapatriés en France ce lundi, soulagement de l'avocate et des familles, vous l'entendrez. Et puis en fin de journal, l'industrie automobile allemande en crise, 3000 suppressions de postes chez Continental. Alors que Donald Trump déclare qu'il rencontrera probablement Vladimir Poutine avant la fin du mois de février, ce mardi, les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont vus à Riyad, une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Ils ont échangé pendant 4h30, premier pas d'une reprise du dialogue. Alors si rien de concret n'est ressorti des discussions, les perspectives de rapprochement s'accélèrent. Anissa Al-Jabri.
La partie russe avait prévenu. La première pierre des échanges était à ses yeux le rétablissement des canaux diplomatiques officiels. Sans surprise, c'est décrit par le chef de la diplomatie russe comme le tout premier résultat concret obtenu.
La première chose, qui est probablement la plus urgente et la plus difficile, est de faire en sorte que les ambassadeurs de Russie aux États-Unis et des États-Unis en Russie soient nommés le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est de supprimer les obstacles qui, depuis de nombreuses années, en particulier sous l'administration Biden, ont été érigés en direction de nos missions diplomatiques, entravant sérieusement leur travail. Et les expulsions incessantes de nos diplomates auxquelles nous avons dû répondre.
Au printemps 2022, les Occidentaux avaient procédé à des expulsions massives de diplomates russes, jugeant leur présence sur leur sol contraire à leurs intérêts de sécurité. La Russie avait ensuite répliqué. Et puis Moscou reste encore officiellement discret sur le sujet, mais bien d'autres concessions des États-Unis sont sur la table. Sergueï Lavrov.
Il y avait un grand intérêt à éliminer les obstacles artificiels au développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique.
De la capitale russe, la porte-parole de la diplomatie a précisé quelques heures plus tard que l'énergie et l'espace faisaient partie des secteurs où la reprise de la coopération est sur la table. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé cette rencontre russo-américaine. En déplacement en Turquie, il a appelé à des pourparlers équitables incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a proposé son pays en hôte idéal pour les probables négociations. Pendant ce temps, Emmanuel Macron tiendra une deuxième réunion ce mercredi avec des alliés de l'OTAN. Plusieurs pays qui n'étaient pas présents à la première réunion de lundi seront là, comme le Canada, la Norvège, les Pays-Baltes ou encore la Finlande. Direction le Liban, l'armée israélienne s'est retirée ce mardi des derniers villages frontaliers qu'elle occupait encore au pays du Cèdre. Et c'est ce qui était prévu dans l'accord de cessez-le-feu après 66 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais l'État hébreu a maintenu 5 positions en territoire libanais. Beyrouth a dénoncé une occupation et décide de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, Paul Khalife à Beyrouth.
Les 3 plus hauts dirigeants du Liban, le chef de l'État Joseph Aoun, le premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri, ont publié un communiqué commun après une réunion extraordinaire ce mardi matin pour exiger un retrait israélien total. Ils ont estimé que toute présence israélienne, même sur 1 pouce du territoire, est une occupation et ont décidé de porter l'affaire au Conseil de sécurité. Cette démarche diplomatique enclenchée par le Liban n'est pas la seule option. Les 3 présidents ont insisté sur le droit des Libanais à libérer leurs terres par tous les moyens et ont réaffirmé la détermination de l'État à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. La présence des troupes israéliennes sur les 5 collines n'a pas empêché l'armée libanaise de se déployer dans 11 localités évacuées ces dernières heures. Des centaines de personnes ont suivi les soldats, faisant parfois des kilomètres à pied en brandissant des drapeaux du Liban et du Hezbollah et des portraits de Hassan Nasrallah. Les habitants ont découvert un paysage lunaire, les images sont parlantes, des quartiers entiers en ruines, des routes défoncées, des canalisations d'eau et des infrastructures électriques détruites. Ces 11 localités sont tout simplement inhabitables. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
La défense civile libanaise dit avoir retrouvé 23 corps dans des villes frontalières après le retrait de l'armée israélienne. De son côté, Paris souligne ce mardi soir la nécessité d'un retrait total. À plusieurs centaines de kilomètres de là, 3 enfants français nés de parents djihadistes ont été rapatriés en France ce lundi. RFI avait retrouvé leurs traces à Damas il y a 2 mois. Ils vivaient dans un orphelinat de la capitale syrienne depuis 5 ans. Les précisions de Muriel Paradon.
Ils ont 6, 11 et 12 ans, 3 frères et sœurs qui ont vécu l'enfer de la guerre. Les bombardements, les camps, l'errance. Leurs parents, des djihadistes français, sont morts en 2019 dans le nord-est de la Syrie. Eux ont atterri dans un orphelinat de Damas, côté régime. 5 ans après, la France les rapatrie enfin. Soulagement de leur famille, leur avocate Marie Dosé.
5 années, c'est tellement long pour eux, mais pour leur famille en France aussi, parce que leurs familles respectives ont gardé des relations avec ces enfants. Ces enfants n'arrivent pas en France sans rien connaître de leur histoire. Ils savent que leur famille les attend et ils ont tissé un lien même virtuel avec leur famille. Donc il était vraiment temps qu'ils rentrent.
La France a attendu la chute de Bachar el-Assad il y a 2 mois pour travailler au rapatriement des 3 orphelins. Trop compliqué avant cela, selon Paris, il n'y avait pas de relation diplomatique avec l'ancien régime. Un argument qui ne tient pas pour l'avocate Marie Dosé.
Moi j'ai toujours du mal avec cet argument parce qu'il n'y a pas de lien diplomatique non plus avec le nord-est syrien. Le nord-est syrien, ça n'est pas un État souverain. Et force est de constater que 169 enfants ont été rapatriés du nord-est syrien en 2022 et 2023.
Dans le nord-est syrien, sous contrôle kurde, il reste encore 120 enfants français et leur mère djihadiste détenue dans un camp.
L'Iran accuse un couple britannique d'espionnage. Ils ont été arrêtés en janvier par les gardiens de la Révolution alors qu'ils effectuaient un tour du monde en moto. Londres se dit profondément inquiet et déclare traiter cette affaire directement avec les autorités iraniennes. En France, François Bayrou clame de nouveau son innocence dans l'affaire de violences sexuelles au sein de l'école catholique de Bétarame. Le Premier ministre affirme n'être jamais intervenu, ni de près ni de loin, auprès de la justice. Il renvoie la responsabilité au gouvernement de Lionel Jospin en pouvoir à la fin des années 90 et affirme que le procureur général avait tenu informer la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou. François Bayrou a également jugé inimaginable que le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, et la ministre de l'Enseignement scolaire, Ségolène Royal, n'aient pas été avertis d'un signalement aussi important. L'ancienne candidate de l'élection présidentielle de 2007 se dit scandalisée et envisage une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Économie en Outre-Rhin, 3000 suppressions de postes chez Continental, l'équipementier automobile allemand qui emploie 200 000 personnes dans le monde. Ces postes s'ajoutent aux précédentes suppressions d'emplois. Toute l'industrie automobile allemande est en crise. Un mauvais signe alors que les électeurs allemands se préparent à se rendre aux urnes dimanche. Agnieszka Kumor.
Près de la moitié des emplois supprimés concernent l'Allemagne. Les suppressions touchent notamment la recherche et développement. L'équipementier veut réduire de 10% ses départements afin de rester compétitif. Ces annonces s'ajoutent au précédent plan de suppression d'emplois, ce qui porte le nombre de postes concernés à plus de 10 000. Le mois dernier, Continental avait annoncé la fermeture de 5 usines allemandes spécialisées dans les matériaux et les solutions industrielles. Un site supplémentaire devra arrêter la production à Nuremberg, en Bavière. Tout comme les constructeurs automobiles, les équipementiers ont massivement investi dans l'électrification des véhicules. Mais depuis 2 ans, les ventes des voitures électriques chutent sur les marchés européens, victimes de la flambée des prix de l'énergie et de la concurrence chinoise accrue. La crise dans l'automobile trahit un déclin industriel allemand, tout secteur confondu. Depuis le Covid, l'Allemagne a perdu près d'un quart de million d'emplois dans le secteur manufacturier.
Et puis du football avant de fermer ce journal avec les résultats de la phase retour de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich arrache sa qualification pour les 8e de finale contre le Celtic Glasgow. But d'Alfonso Davies dans les dernières minutes, 1-1, score final, mais les Allemands l'avaient emporté 2-1 au match aller. Élimination cruelle pour Monaco après un match nul fou contre le Benfica Lisbonne 3-3. Les Portugais avaient gagné 1-0 à l'aller. Autre élimination, celle de l'AC Milan contre Feyenoord 1-1. Le but de l'ancien Milanais Santiago Jiménez envoie les Hollandais en 8e. Et puis serait tragique pour le football italien car l'Atalanta Bergame perd aussi.